Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque vendredi à partir de 21h et samedi à partir de 7h25 de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons en ligne Madame Élisée Odia, elle est journaliste indépendante. Bon, elle n'est pas encore là, elle va nous rejoindre. Et aussi en ligne depuis Melbourne en Australie, Eric Mwamba, il est fondateur et responsable du magazine Grand Journal Intelligent. Bonjour Eric Mwamba.
Bonjour Guy Maté, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Et également en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, il est journaliste camerounais, il est écrivain et président du Club de l'information africaine. Bonjour Louis Magloire Kemayou.
Bonjour Guy, bonjour les auditeurs, bonjour tout le monde.
Merci à tout de suite pour la rétrospective des 7 jours d'actualité. Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Élisée Odia, journaliste indépendante qui n'est pas encore là, mais elle va nous rejoindre. En ligne depuis Melbourne, en Australie, Eric Mwamba, fondateur et responsable du magazine Grand Journal Intelligent. Et aussi en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, il est journaliste camerounais. Il est écrivain et président du Club de l'information africaine. Trois sujets au menu de cette émission, à savoir journée ville morte du 3 juin dernier, démonstration politique ou projet de société, épidémie de la maladie à virus Ebola en RDC, 5 personnes sont déjà guéries plus de 20 jours après sa déclaration officielle, et enfin, une série de naufrages en une semaine sur les cours d'eau de la RDC, avec les derniers cas sur la rivière Aruwimi, dont le bilan provisoire est de plus de 60 disparus. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de l'intensification des attaques des ZDF contre les civils au nord Kivu et en Ituri. En effet, depuis le début de l'année 2026, plus de 300 civils ont été tués à la suite des attaques des ZDF dans les provinces de l'Ituri et du nord Kivu. La dernière attaque remonte dans la nuit du mardi 2 juin, où au moins 16 civils ont été tués, 5 personnes portées disparues et plusieurs maisons et motos incendiées dans 3 quartiers de la localité d'Imbaou, chef-lieu des secteurs de Benimbaou au nord Kivu. Et dans la nuit du 30 au 31 mai, environ 25 civils pygmées et bantous ont été victimes d'une autre attaque dans plusieurs entités agricoles des Bapakombe et Bakondo, toujours à Beni, au nord Kivu. Face à ces drames, les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNIDH, demandent l'ouverture d'une enquête indépendante et impartiale afin d'identifier formellement les auteurs de cette attaque et de les traduire en justice. L'agence onusienne appelle également les autorités à renforcer la protection des populations civiles et demande le déploiement d'une assistance humanitaire urgente pour les survivants. Eric Mwamba, comment vous réagissez à cette intensification des attaques des ZDF contre les civils au nord Kivu et à Ituri?
Je présente les condoléances aux populations affligées par ces attaques répétitives qui durent depuis des années. Comme on a l'habitude de le dire dans cette émission, il est quand même étonnant que cela dure pendant autant d'années et que les forces armées congolaises qui sont en coalition avec celles de l'Ouganda n'arrivent pas à maîtriser le mode opératoire et que les deux pays qui travaillent ensemble pour l'éradication de ce phénomène n'arrivent pas à sécuriser les populations. Il faut quand même noter que les ADES sont des terroristes ougandais qui ont été repoussés du territoire ougandais pour perpétrer des morts, des tueries, des pertes en vie humaine énormes et des pillages sur le territoire congolais. C'est comme si, dans ces partenariats entre les forces de défense et de sécurité de l'Ouganda et de la RDC, l'Ouganda est le seul pays qui a su tirer son épingle du jeu. Donc, je pense qu'il appartient à la RDC de réfléchir par deux fois pour redéfinir ces stratégies, puisque ça n'est de trop. Chaque jour qui passe, chaque mois, c'est le même débat, les mêmes tueries.
Merci, Louis Magloire Kemayou. Certains experts expliquent la persistance de l'activisme des EDF dans cette partie du pays par le fait que leur action ne menace pas directement les pouvoirs de Kinshasa, et ce qui fait que les moyens utilisés pour combattre cette rébellion ne semblent pas être efficaces. Que répondez-vous à cette opinion, Louis Magloire Kemayou?
C'est vrai que c'est très loin de Kinshasa. La scène sur laquelle se déroulent ces massacres et cette situation humanitaire insupportable sont très loin du centre de décision, mais ce n'est pas une spécificité de la RDC. Si vous allez un peu plus loin vers le Sahel central, des pays comme le Mali, le Niger ou le Burkina Faso font face exactement au même problème, c'est-à-dire ce sont des attaques terroristes menées dans des régions où l'État n'est pas présent et donc où l'État n'a pas les moyens aujourd'hui d'intervenir aussi rapidement que si l'on était dans la capitale qui est le centre du pouvoir. Et cela suscite plutôt un débat, celui de savoir comment, en décentralisant, parce que c'est déjà quand même légèrement décentralisé en RDC avec les provinces qui ont leur gouvernement, mais comment est-ce que les moyens émis par ces gouvernements locaux et le pouvoir central peut permettre de gérer ce problème. Et pourquoi le dispositif actuel ne permet pas d'éradiquer ce genre de phénomène?
Et pour vous, quelle pourrait être, n'est-ce pas, la manière la plus efficace pour régler ces problèmes de façon holistique?
Je crois que si quelqu'un avait la solution, y compris moi-même, il l'aurait déjà appliquée, parce que nous sommes quand même dans un contexte humain où on ne peut pas manquer d'assister des personnes qui sont en danger de mort, comme c'est le cas. Malheureusement, je n'ai pas la solution miracle. Je peux juste émettre quelques pistes qui sont celles existantes déjà, c'est-à-dire celles de la collaboration franche entre les deux pays qui ont à gérer cette situation, c'est-à-dire l'Ouganda et la RDC. Mais malgré le fait qu'il y ait une collaboration entre les deux, il faut qu'au niveau local, chacun des pays soit capable, à l'intérieur de ses frontières, de contenir, voire d'éradiquer la menace. C'est la première chose. La deuxième, c'est que quand il y a le droit de poursuite, c'est-à-dire si l'armée congolaise, par exemple, poursuit des terroristes qui vont se cacher en Ouganda, il faut que l'armée congolaise ait le droit d'entrer dans le territoire ougandais et de poursuivre avec le concours naturellement et l'autorisation des autorités ougandaises les malfrats et vice versa. Donc pour le moment, il n'y a que cela qui peut aider. Et puis la deuxième chose, c'est arriver aussi au-delà de la dimension militaire, sur le plan social et économique, arriver à viabiliser ces zones pour mettre en confiance les populations, pour leur donner les moyens de se défendre et leur donner surtout la confiance de l'État qui fait que où que vous soyez, vous êtes certain que le parapluie protecteur de l'État est là pour vous protéger.
Merci, Eric Mwamba. Pour vous également, c'est quoi les pistes pour régler efficacement et de manière durable cette question des EDF dans la partie est du pays?
Bon, je pense que les moyens sécuritaires ont montré leurs limites, c'est-à-dire l'armée, les forces de défense et de sécurité. Il faut maintenant plutôt regarder du côté du développement des infrastructures, puisqu'aujourd'hui la superpuissance des États n'est plus forcément mesurée par la simple capacité ou la dimension de ses forces de défense et de sécurité. Donc il faut construire les infrastructures, puisque la plupart de ces attaques se déroulent dans des milieux reculés où il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'électricité. C'est-à-dire que les ADF font irruption souvent la nuit, les populations dorment, il n'y a pas d'éclairage. Ils sont souvent pris par surprise. Donc je pense que l'interconnexion, par exemple, si on modernisait ces territoires grâce aux infrastructures, les routes modernes, l'électricité, l'interconnexion, par exemple, à l'Internet, etc., pourrait permettre à la population d'être en alerte et puis il y aura l'éclairage, etc., qui vont faire peur à ces ADF.
Merci. On prend une petite pause en écoutant L'art de la paix de Lexus Legal et on se retrouve juste après.
Allô? que le monde spectateur assiste au réveil de la vie. L'Afrique accentue son processus d'euthanasie. Aucune raison, noble soit-elle, ne justifie la prise d'armes par ses fils qui tour à tour sont traîtres. Frère ami, je ne suis pas ton amer ennemi. Il n'y a que toi et moi unis sur cette partie du monde. Le temps de la paix n'est pas qu'une chanson, mais un constat que la guerre au Congo n'a pas d'issue et n'est pas une solution. Un pari osé, j'imagine. Un lourd tribut payé pour se défaire du colon. Un paradoxe de voir l'effort fourni par l'Africain pour se récoloniser. En effet, chaque conscience, crise qui s'enlise, balle qui crépite, fait appel au monde à notre chevet. Blessé des guerres que nous sommes, on nous en puce même sans anesthésie. Une solution parmi tant d'autres, on s'en contente. Mais quand viendra l'heure de construire si on passe notre temps à recoudre nos bêtises? Autant le ciel tient ses affres, le peuple tient la paix plus que ses soldats son arme. Puisqu'aucun roi, président, dirigeant ne règne sur des cadavres, il est temps d'essuyer les larmes de ce peuple meurtri sans état d'âme. De la paix n'est pas qu'une chanson. C'est un constat que la guerre au Congo n'a pas d'issue et n'est pas une solution. Frère ami, on n'est pas un meilleur ennemi. Condamné à vivre ensemble et nous sommes reconnus coupables à vie. Dit-on, la richesse ne fait pas que des heureux. Au lieu d'être synonyme de vie, des joies, sourires et abondance, ces riches fus sont les plutôt sources de mort, tristesse, vie, misère et désarroi. Méfions-nous, ils risquent de nous engloutir tous. Car grand est l'appétit de fort de ce monde, égard aux petits qui détiennent une pépite d'or ou goutte de pétrole. Sur le terrain, capable d'être vainqueur ou vaincu, certains que nous sommes aptes à faire la paix, j'en suis convaincu. Ayons le courage d'accepter que la guerre a failli à sa mission. Laissons l'espace et le temps à la paix pour de bon. Senda. Le peuple implore des fils de la paix.
C'était l'art de la paix de Lexus Legal qui, à travers cette belle chanson, estime qu'il est temps de faire la paix en RDC car la guerre a montré ses limites. Aurait bien à l'actualité cette semaine, la capitale congolaise a connu une journée particulière ce mercredi 3 juin, marquée par l'appel de l'opposition à observer une ville morte pour protester contre tout changement de la constitution. En parallèle, les partis de la majorité présidentielle et les autorités ont invité la population à poursuivre normalement leurs activités. Dans les rues, l'ambiance était contrastée. Certaines artères étaient presque désertes, tandis que quelques habitants ont tout de même choisi de sortir. D'autres ont préféré rester chez eux pour suivre l'évolution de la situation. Certains parents affirment avoir préféré garder leurs enfants à la maison par précaution, alors que d'autres ont vaqué sans difficulté à leurs occupations. Dans plusieurs points sensibles de la capitale, des dispositifs policiers renforcés étaient visibles, notamment à Sainte-Thérèse et Kimbuta, dans la commune d'Enjili. La même situation était aussi observée dans certaines villes de la RDC. Par ailleurs, la coalition C64 a annoncé ce jeudi à Kinshasa qu'elle va déposer une plainte contre le président Félix Tshisekedi pour haute trahison. Eric Mwamba, vous êtes fondateur et responsable du magazine d'un journal intelligent. Vous avez souhaité nous parler de la journée Ville Morte du 3 juin dernier en vous posant la question de savoir si c'est une démonstration politique ou projet des sociétés. On vous écoute.
Effectivement, cette mobilisation s'inscrit dans les droits légitimes de l'opposition de contester les orientations du gouvernement et de mobiliser les citoyens autour des enjeux institutionnels. Dans le cas d'espèce, l'initiative de la majorité au pouvoir visant, selon l'opposition, à préparer une modification de la Constitution susceptible de permettre au président Félix Tshisekedi de se maintenir au pouvoir au-delà de la limite actuelle des mandats. Mais au-delà de la réussite ou de l'échec, hein, parce que après cette journée, il y a eu quand même une polémique. Hein, l'opposition qui revendique le succès de cette journée et la majorité au pouvoir qui conteste, qui dit que ça a été un échec. Alors, trois questions méritent, à mon sens, d'être posées. L'opposition, hein, cette opposition de la RDC, offre-t-elle aujourd'hui une alternative crédible? Comment mesurer objectivement l'impact de cette ville morte? Et surtout, que se passera-t-il après cette mobilisation? S'agit-il d'une opposition de contestation ou une opposition de proposition? Dans toute démocratie, Guimaté, l'opposition ne se définit pas uniquement par sa capacité à s'opposer. Elle se définit également par sa capacité à préparer une alternative des gouvernements. Alors, on peut se poser une série de questions. Où sont les programmes détaillés sur l'eau, par exemple, élaborés par l'opposition? Où sont les propositions sur l'électricité? Où sont les politiques alternatives en matière de santé? Où sont les projets de réforme de l'éducation? Où sont les plans de création d'emplois? Plus largement, alors que le monde est entré dans une nouvelle phase de compétition stratégique autour de l'intelligence artificielle, des minerais critiques et la transition énergétique et de la souveraineté numérique, la RDC se trouve au centre de nombreux enjeux mondiaux. Pourtant, ce sujet demeure largement absent du débat porté par les principales forces d'opposition. L'opposition congolaise apparaît souvent réactive plutôt que stratégique. Elle réagit aux initiatives du pouvoir, mais peine à imposer son propre agenda politique. On continue parfois à mobiliser les méthodes des années 90 ou des années 2015, alors que les défis du Congo de 2026 sont plus ailleurs que ce que l'opposition montre aujourd'hui. Après chaque opération ville morte, c'est vrai que deux récits s'affrontent. L'opposition, comme ce qu'on a vu le 3 juin, l'opposition revendique la victoire, la majorité l'échec. Comment alors mesurer? Qui peut mesurer s'il s'agissait de l'échec ou de la réussite? En principe, dans des pays avancés en matière de démocratie, les taux de fermeture des commerces, les niveaux de circulation observés, l'activité des marchés, les fonctionnements des écoles, les données économiques disponibles sont généralement mesurés par des instituts de sondage indépendants, les médias professionnels et cellules de fact-checking, les universités et centres de recherche, les données publiques, les organisations de la société civile. Dans le cas de la RDC, Guimaté, l'absence de cet arbitrage indépendant montre qu'il s'agit quand même d'une certaine négligence dans le domaine des données et des statistiques. Alors, je vais poser la dernière question. Que va-t-il se passer après cette journée ville morte? L'opposition va-t-elle continuer à privilégier la contestation? Va-t-elle investir davantage dans la formation de ces cadres? Va-t-elle produire des propositions détaillées sur les grands enjeux nationaux? Alors, pour le pouvoir, va-t-il tenir compte des inquiétudes exprimées, parce qu'il s'agit quand même de l'exercice démocratique? Va-t-il clarifier ses intentions concernant la Constitution?
C'est des questions auxquelles on ne sait pas répondre pour le moment, mais tout ce qu'on sait, c'est que l'opposition a annoncé officiellement depuis hier qu'après la journée ville morte, l'autre action à mener, c'est celle d'aller déposer une plainte contre le chef de l'État pour haute trahison.
Je ne sais pas si dans les cas d'espèce, on peut déjà parler de la haute trahison, parce que le président de la République est en plein exercice de son mandat qui va encore jusqu'en 2028. Et la Constitution donne quand même au président de la République, au gouvernement, au Parlement et à une partie de la population la possibilité de lancer le débat sur la révision de la Constitution. Bon, mais même dans le cas où on ouvrirait les débats sur le remplacement de cette constitution, je ne pense pas qu'il s'agit d'une haute trahison. Il s'agit tout simplement d'un débat démocratique. C'est pour cette raison que l'opposition devrait développer sa capacité à apporter des arguments alternatifs. Et je ne pense pas aussi que du point de vue légal, l'opposition est qualifiée pour porter plainte pour haute trahison contre les chefs de l'État, parce que par rapport aussi à cette question, la constitution est claire. Je ne pense pas que l'opposition est identifiée parmi les acteurs qui devraient porter cette question à la Cour constitutionnelle.
Merci Louis Magloire Kemayou, vous êtes journaliste et camerounais, vous êtes écrivain et président du club de l'information africaine. Au vu de cette situation particulière, c'est mercredi 3 juin à Kinshasa et dans certaines villes de la RDC, quelles leçons l'opposition ainsi que le pouvoir devrait-il tirer de cette situation, Louis Magloire Kemayou?
Ça me fait toujours beaucoup de peine de constater que quand on s'attaque à ce qui est la Bible d'un pays, il y a encore un camp de l'opposition et un camp du pouvoir. Parce que ni la situation d'opposant, ni la situation de majorité ne sont éternelles. À un moment ou à un autre, l'un ira dans le camp de l'autre et vice-versa. Le président actuel le sait très bien puisque son père lui-même fut d'abord dans le gouvernement de Mobutu, puis entra dans l'opposition et après sa mort, il a repris les rênes du parti avant de devenir président de la République. Donc, il sait ce que c'est qu'être dans l'opposition. Ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui ne le seront pas éternellement. Rien ne dit que quand on est opposant, c'est un statut à vie. Et quand on est président, non plus. Donc, moi, ça me fait énormément de peine de constater que l'on est encore dans ce type de débat quand il s'agit de questions aussi fondamentales que celles de la Constitution. Je pense que dans un pays où l'on connaît les drames que nous avons décrits, que ce soit la situation dans l'Ituri, dans les deux Kivu ou ailleurs, et même au regard simplement du niveau de vie économique et de l'exploitation ignoble auquel fait face la RDC, il devrait y avoir une espèce de d'union sacrée de toute la classe politique pour trouver des solutions concrètes au problème du pays. D'ailleurs, quand on regarde cette majorité qui est au pouvoir, je ne suis pas certain que Vital Kamerhe soit sur la même ligne que le président de la République. Je ne suis pas certain que Jean-Pierre Bemba le soit aussi. Là, on reste encore dans un camp qui est celui de la majorité présidentielle. Donc, j'aimerais que l'on traite cela avec beaucoup plus de respect pour les électeurs, parce qu'il ne s'agit pas ici uniquement de parler par rapport à une chapelle politique, mais de défendre ce qui est la Bible commune de tous les Congolais, c'est-à-dire la Constitution du Congo. Si on la tripatouille juste pour des enjeux électoraux, pouvoir se présenter à un troisième mandat que la Constitution ne permet pas, j'estime que c'est insulter la dignité des personnes qui nous ont élus, que ce soit les personnes qui appartiennent au même pouvoir, au même parti, ou ceux qui sont dans un parti d'opposition. Le fait pour moi aujourd'hui de conquérir le pouvoir n'est pas une fin en soi. C'est le début d'un chantier qui est celui de travailler au bonheur et à la fierté de tous les Congolais. Quand les Léopards seront à la Coupe du Monde, on leur demandera pas leur opinion politique, s'ils sont pour ou contre le président actuel. On leur demandera des résultats. C'est la même chose qu'on attend des politiciens.
Que pensez-vous de cette initiative de l'opposition congolaise, justement, qui consiste à appeler à une journée ville morte pour protester contre les changements de la Constitution?
Je pense que c'est légitime. On est dans un jeu démocratique normal. Quand on n'est pas d'accord, on le dit. Et on essaie de montrer que le rapport de force nous est favorable. Et c'est ce que l'opposition a essayé de faire. Est-ce qu'elle a la capacité, étant dans l'opposition, de mobiliser sereinement et d'emmener les gens sur le terrain pour démontrer qu'elle n'est pas contente? Ça, je n'en ai aucune idée. Je suis malheureusement pas en RDC pour mesurer cela de façon neutre. Mais ce qui est certain, c'est que dans tous les pays du monde, que l'on soit dans un pays développé ou pas, quand on n'est pas content, on le dit. En famille, ça se fait. En politique aussi, ça se fait parce que c'est une famille beaucoup plus élargie. C'est une nation. Et donc, j'estime que c'est pas parce que quelqu'un est fâché qu'on doit le traiter de tous les noms d'oiseaux. On peut pas frapper quelqu'un et l'empêcher de pleurer. Donc, c'est normal que les opposants, les partis d'opposition, à un certain moment, disent « nous ne sommes pas d'accord par rapport à ce qui est en train d'être fait, par rapport à ce qui est en train d'être dit concernant la constitution du pays ».
Merci. On me signale que Mme Élisée Odia est là. Mme Élisée Odia, vous êtes là ?
Oui, je suis là.
Bonjour.
Bonjour, Guy Maté.
Voilà, vous êtes journaliste indépendante. Hein. Nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, de cette journée Villemonte qui avait été initiée par l'opposition pour protester contre les changements de la Constitution. Et cette approche qui consiste, n'est-ce pas, à appeler à une journée Villemonte, à votre avis, cette approche est-elle capable, n'est-ce pas, de faire fléchir les pouvoirs dans cette démarche et de vouloir changer la Constitution, Madame Izéodia?
Alors ça, je ne sais pas, et le temps nous en dira un peu plus. Il faut essayer de circonscrire ça dans un cadre bien précis. C'est pas la seule activité que compte. D'abord, je tenais à dire que c'est de bonne guerre. Hein. Ce n'est pas la première fois dans notre pays qu'on puisse assister à cette opposition qui essaye également de dire à sa façon non à quelque chose qu'il estime pour sa part que ce n'est pas bien pour le pays. Donc, des recettes qu'on connaît déjà, des recettes qu'on a déjà vu appliquer dans ce pays il y a quelques années de cela. Donc, c'est pas une nouveauté. Et encore, je dis c'est pas une nouveauté, mais cela veut dire c'est pas parce que c'est nouveau qu'il faut pas le faire. Là, il faudrait peut-être poser la question aux opposants. Et donc, je disais, il fallait bien que l'opposition puisse faire quelque chose. Il fallait pas qu'il se limite à dire on est contre le changement. Et donc là, c'était quelque chose qu'il fallait faire, qu'il fallait montrer également. Moi, j'ai eu cette impression, c'était un peu mitigé. Le résultat au niveau de Kinshasa, c'est un mitigé à mon avis, mais c'est à l'image du pays. Les Kinois, ils disent nécessité. C'était une partie de la roue. Il faut l'admettre que la ville a tourné un peu au ralenti une bonne partie de la matinée et en début d'après-midi. C'est à l'image quand même de la classe politique, c'est à l'image du pays, sans dire long sur le pays qui est divisé, qui est fracturé. Certains diront 50-50, d'autres diront 60-40. Mais c'est à l'image du pays. Il y a des gens qui sont pour ce changement. Il y a des gens qui sont contre ce changement et qui l'ont manifesté. Moi, je pense que pour une affaire comme celle de la Constitution, il faut arriver à bâtir un consensus. Parce que c'est quelque chose qui doit engager tout le monde, tout le pays. Et ce consensus-là, je crois que les uns et les autres, les pour et les contre, doivent arriver à se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on arrive à bâtir ce consensus pour essayer de donner justement à ce pays soit une constitution qui est à l'image du pays, soit essayer de réviser. Bref, il faut, à mon avis, trouver un consensus. Et ça, je le dis, on n'a pas intérêt, et on ne le souhaite même pas, qu'il y ait la déstabilisation de la partie ouest de notre pays, d'autant plus qu'on a une bonne partie de l'est qui est déjà déstabilisée avec l'agression rwandaise. Et donc...
Allô, Madame Élisée ? Apparemment, un problème de connexion. Merci, chères auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC est aussi l'actualité musicale. Le mardi 10 juin, c'était la date anniversaire de naissance de Jean Bédel Mpiana, dit J.B. Mpiana, ce célèbre artiste et musicien, chanteur, auteur, compositeur, interprète et patron de l'orchestre Wenge BCBG. J.B. Mpiana, c'est l'une des belles voix de la musique congolaise moderne. À cette occasion, nous allons écouter l'une de ses compositions intitulée « Qui n'est bougé ?» Et on revient juste après.
Ah, maman, ma tata ouelle. Où est-ce qu'on a les matabas, j'ai vu qu'il y a un débrouillé. I'm
Regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque vendredi à partir de 21h et samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet de l'intensification des attaques des ZDF contre les civils au nord Kivu et en Ituri. Nous avons également analysé la journée ville morte du 30 juin dernier avec cette question, démonstration politique ou projet de société. Participe à cette émission, Madame Élisée Odia, elle est journaliste indépendante. En ligne depuis Melbourne, en Australie, Eric Mwamba, il est fondateur et responsable du magazine Grand Journal Intelligent. Et aussi en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, il est journaliste camerounais. Il est écrivain et président du Club de l'information africaine. Cinq personnes sont déjà guéries de la maladie à virus Ebola en Ituri, plus de 20 jours après sa déclaration officielle en RDC. Selon des sources médicales, les premiers recevaient des soins au centre de traitement de Rwampara, alors que les quatre autres qui sont sortis du centre médical évangélique de Bunia, dans la province de l'Ituri, ont aussi été déclarés guéris par les experts de ce centre. Cependant, entre samedi 30 mai et lundi 1er juin, cinq détenus identifiés comme des cas suspects de la maladie à virus Ebola se sont évadés des structures sanitaires de Bunia et de Rwampara où ils avaient été transférés pour une prise en charge médicale. À ce jour, les fugitifs restent introuvables, plongeant la population locale dans une vive inquiétude face au risque d'une propagation communautaire du virus. Entre-temps, le gouvernement et ses partenaires, dont l'OMS, l'UNICEF, les PAM et plusieurs organisations non gouvernementales internationales, intensifient leur soutien logistique contre cette 17e épidémie de la maladie à virus d'Ebola de la souche Budibungio à Ituri. Plusieurs lots de matériel, des véhicules et d'équipements roulants ont été remis mardi et mercredi 3 juin à Bunia au gouvernement provincial de l'Ituri. Ces dotations visent à améliorer la mobilité des équipes de riposte sur le terrain, à optimiser la prise en charge des patients et à renforcer la prévention. Madame Élisée Odia, vous avez souhaité nous parler justement de la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola en RDC en évoquant ces résultats, ces 5 personnes, n'est-ce pas, qui sont déjà guéries plus de 20 jours après sa déclaration officielle. On vous écoute.
Alors déjà, je voulais parler de ça pour... je crois que quand je vous ai pris en cours, j'ai entendu quelqu'un parler de la prévention. La difficulté que nous avons dans ce pays... c'est de prévenir des choses, de prévenir des épidémies, de prévenir des attaques. On peut le voir à tous les niveaux. Et aujourd'hui, quand vous entendez certains brandir cette 17e, épidémie ou phase, comme un trophée, vous vous dites qu'on n'a pas appris des leçons de ce qui s'est passé antérieurement dans ce pays. Donc, j'essaie de marteler pour dire, on n'a pas une politique préventive, surtout en matière de santé publique. Et là, on fait que le dire depuis plusieurs années. On sait qu'on est l'épicentre de beaucoup d'épidémies, notamment Ebola. et tous les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas réussi à en mettre en place des mécanismes préventifs pour essayer de ne plus subir. Mais pour qu'on puisse être ce pays qui va tout de suite réagir, qui peut avoir des mécanismes, un système bien défini, permettant de détecter rapidement et de prendre en charge rapidement les malades. Donc aujourd'hui, on a failli, l'État congolais a failli, la République a failli pour quelque chose que pourtant on maîtrise. On a ici un docteur qui a été celui qui a découvert cette maladie, qui a découvert le traitement autour de cette maladie. Donc on n'a pas d'excuses. Et quand vous entendez le docteur Muyembe dire par exemple qu'il ne reçoit aucun financement, on se dit mais on ne tire pas les leçons du passé. Et ça c'était pour moi, je voulais aborder ça, c'est une sorte de coup de gueule pour dire il faut qu'on puisse repenser, même pas repenser, penser à mettre en place une politique préventive s'agissant de tout ce qui concerne la santé ici dans notre pays. Autre chose que je voulais dire, c'est ce côté-là alarmiste quand même. Je ne suis pas de ceux qui sont complotistes, mais on a vu l'antivirus qui commençait ici, qui tout de suite, ok, ça s'est estompé, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en compte, beaucoup de paramètres. Mais quand il s'est agi d'Ebola, on a vu cette façon dans le monde où certains se sont alarmés, comme si c'était une maladie qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas les possibilités d'en guérir, alors que c'était faux. En fait, cette psychose causée en grande partie par certains pays, par certains médias à l'international, je ne sais pas pour quelles raisons, juste pour peut-être nuire à la RDC, je l'ai trouvé quand même assez triste, assez pas très correct pour le pays. Parce que les uns et les autres savent que le pays a les capacités, la possibilité de contenir cette épidémie et d'arriver à opposer un traitement. Donc voilà pourquoi moi je voulais parler de cette problématique, mais également mettre l'accent sur la sensibilisation. Et j'espère que là le gouvernement est en train de mettre tout en œuvre, mais pas que le problème du gouvernement. Les médias doivent jouer leur partition, la société civile doit jouer leur partition. Et quand je parle de médias, je ne vois pas que les médias en interne ici en République démocratique du Congo. Je vois les médias à l'extérieur du pays aussi, qui ont été beaucoup plus alarmistes, qui ont essayé de faire une sorte de surenchère. C'est vrai qu'il y a des morts, on n'en dit qu'on vient pas, on n'est pas dans le déni, mais essayer de présenter cette maladie comme si c'était une maladie, ça n'a rien à voir avec le Covid, quoi. Donc, je voulais interpeller les médias, la société civile, le gouvernement congolais pour qu'on puisse, à mettre en place une politique préventive au niveau de la santé, tout ce qui concerne la santé publique, mais également donner les moyens à notre centre qui est l'INERB, le centre de recherche de tout ce qui est épidémiologique, mais également interpeller la société civile, les ONG, les médias qui doivent s'investir beaucoup plus dans la sensibilisation et que ça ne doit pas s'arrêter une fois que la maladie sera vaincue et qu'on doit continuer en mettant en place justement une communication qui fera en sorte qu'on puisse également participer à la prévention, à tout ce système préventif. Voilà.
Merci, Louis Mangouar Kemayou. Lorsque vous suivez l'analyse de Madame Élisée Odia, et aussi, au vu de ce qui se passe sur le terrain, est-ce qu'on peut se permettre de dire que la RDC n'a pas pu tirer les leçons des 16 précédentes épidémies de la maladie à virus Ebola?
Oui, parce que on doit malheureusement le faire, parce que il n'y a pas d'amour, il n'y a que des signes d'amour. C'est pareil pour la confiance. Il n'y a pas de confiance. Vous devez prouver que vous êtes digne de confiance. Et quand on voit la manière dont aujourd'hui le gouvernement gère cette crise-là, anticipe les crises de façon générale, et en l'occurrence la crise sanitaire en question, celle d'Ebola, on n'a pas l'impression que c'est pris au sérieux, que l'envergure du problème a été bien mesurée et que la réaction est proportionnée par rapport à cela. Je vois juste de l'autre côté de la frontière, au Rwanda, la frontière a été littéralement fermée. Et donc, dans ces conditions-là, si au niveau médical, les formations médicales n'ont pas reçu les moyens de prévenir et surtout d'accueillir les différents malades, de sécuriser les endroits où on va les garder pendant qu'ils sont sous soins, il y a de bonnes raisons d'avoir peur. Mais après, c'est aux autorités de montrer qu'elles ont pris le problème à bras-le-corps et qu'elles ne sont pas débordées par le phénomène qui s'est produit.
Merci, Eric Kemwamba. 5 détenus, nous l'avons dit ici, 5 détenus identifiés comme des cas suspects de la maladie à virus Ebola se sont évadés des structures sanitaires de Bounia et Rwampara où ils avaient été transférés pour une prise en charge médicale. Peut-on dire que les défis sont encore énormes pour vaincre cette maladie, parce que quand vous voyez une partie de la population qui n'arrive toujours pas à s'impliquer, n'est-ce pas, dans la riposte, ça montre que on a encore du mal, n'est-ce pas, à vaincre la maladie.
Bon, moi j'aimerais quand même renforcer ce que Madame Élisée et Monsieur Louis Magloire ont dit, puisque on est dans le scénario d'une politique réactive, comme je le disais pour l'opposition, en tout cas pour le pouvoir. Quand même, la fonction principale de la médecine et surtout en santé publique, c'est la prévention. Et on n'a pas tiré les leçons de précédentes épidémies, et même on sort de la pandémie de COVID-19. La RDC a quand même reçu des fonds importants de partenaires internationaux. On n'a pas vu, par exemple, un effort de multiplication de laboratoires, des centres épidémiologiques, mais surtout des cliniques modernes, de proximité. On construit les hôpitaux, c'est bien, mais je pense que toute politique doit toujours s'adapter aux réalités locales du pays. La RDC est un pays où la population est beaucoup plus concentrée dans les centres urbains et les agglomérations, avec la tendance à la promiscuité. Donc j'étais à Kinshasa, il n'y a pas longtemps, j'ai assisté à une sorte d'embouteillage des piétons du côté de rond-point Gaba. C'est-à-dire qu'on doit se dire qu'à tout moment, s'il y a une épidémie qui se déclenche, on peut assister à ce genre de problématiques. Donc, il faut renforcer l'anticipation, la prévention. Mais moi, j'aimerais aussi insister sur les données, l'importance que les uns et les autres, par exemple, Madame Élisée parlait des médias. Il faut quand même que la RDC pense à l'émergence des médias spécialisés. Par exemple, les médias spécialisés dans la création des données sur la santé. Par exemple, on doit savoir qu'on a combien de centres de recherche, combien de laboratoires, combien de cliniques, pour combien de populations, combien de médecins généralistes, combien de médecins spécialisés, combien d'agents de santé, pour combien de personnes qui vivent dans quel espace. Ce travail devrait se faire de manière systématique pour influencer les politiques publiques qui sont élaborées par les décideurs. Je pense que c'est aussi bien le travail aussi de l'opposition. J'attends l'opposition sur ces terrains-là, par exemple de la création des données, mais aussi les autres investisseurs. Le marché des données est un marché très important au niveau international. Quand on parle de la RDC, dans la plupart des cas, on parle des estimations. Il n'y a pas de données fiables, il n'y a pas de données crédibles. C'est comme si l'État et les Congolais, d'une manière générale, qui parlent du narratif, mais ils délèguent la création des données et les infrastructures de gestion des données à d'autres. Je pense que c'est très important de regarder un peu de ce côté-là aussi.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Assistance sociale de Reddy Amissi et on se retrouve juste après.
Mais au-delà des espérances, n'oublie jamais que tu dois compter sur toi-même. Toi-même. Gracias. Bako yande li salisi, salisa, salisa,
pesande pesa mutindo nina sala na kokite tika na nzemba tana nzimbo tika lance mama mama e come linda handinga mbuyo kuzanga pele mama na kitenda kopesa yande mkombo maboko makashe kele ya mpamba meazana nini eloko tena mono kwa kakase maluba na mitali pena tunina nzambe na impate na yo mponi mina nyokwa mambu yu mponi mina nyokwa mambu yu didao mama bidia kuyo mwako loko kele loko monande makambo mudumbu ya koba mudumbu ya mokombo so bayeba ya kaebele panayo loko la ante Agence nationale pour l'emploi. Bah ouais, on so y est, lokola yo za l'assistance sociale. Mon colo zangi motote aya. Allo, artiste photo occupé. Allo, olé mon kendi, il est en rayon. O simbi moto, comme inde kokamisa. Bah yena salisa, va pessinga, il est mon congo. Mon kilinzo kande makambo. Sa pohome baninga na yebisa bino lisese papa moka sinyaka kontra ye na liwa yuela kaka ye jamais 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 koya nanda konayo mwana liboso ya mibale ya misato ya mine yake papa wana simbi moto apandi bina mbabele liyo oh liwa mboni boni bobo 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 ninanga ye yola kaka angayi toko ya nanda konanga jamen liwe lala kina mabele mikoseka ekatana kina mabele waneza ya yemeye mokolo akotinda nga kusuwa yo nakula kate mokolo tembulate lila kate papa wanasimbi moto ako mande kolila.
C'était assistant social de Bailo Canto, Redi Amissi. Je rappelle que nous avons dans cette émission Madame Élisée Odia, elle est journaliste indépendante, en ligne depuis Melbourne en Australie, Eric Mwamba, il est fondateur et responsable du magazine Grand Journal Intelligent, et aussi en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kimayou, il est journaliste camerounais, il est écrivain et président du club de l'information africaine. Une embarcation a chaviré mardi 10 juin sur la rivière Arouini dans le territoire des Banalia, à 128 km au nord de Kisangani, dans la province de la Tchopo. Le bilan provisoire fait état de plus de 60 personnes disparues et de seulement 6 rescapés. Selon des témoins, l'embarcation motorisée qui transportait de nombreux passagers et des marchandises était fortement surchargée. Ces nouveaux drames de la navigation ravivent la colère de la population locale. Réunis en urgence, le comité local de sécurité pointe plusieurs défaillances. Outre la surcharge manifeste, les autorités dénoncent l'absence totale de contrôle officiel avant les départs, ainsi que l'irresponsabilité du conducteur. Dans la province du Kwilu, un autre drame fluvial a endeuillé la population. La baleinière HB Kabuki a chaviré samedi 30 mai sur la rivière Kwilu, à proximité du territoire de Bagata, causant la mort d'au moins 11 personnes. Selon les autorités locales, 37 passagers ont pu être secourus, tandis que plus de 50 autres demeurent portés disparus. Louis Magloire Kemayou, vous avez souhaité nous parler de la série des naufrages sur les cours d'eau de la RDC. On vous écoute.
Oui, mon choix a porté sur les naufrages pour une raison simple, c'est que on a deux problématiques qui se posent avec la navigation fluviale. La première problématique, c'est la question des transports. Si les gens avaient un autre choix que celui d'utiliser la voie fluviale, ils auraient utilisé ce moyen. Mais le fait est qu'aujourd'hui, qu'il s'agisse de transports terrestres, de transports fluviaux, ou même de transport aérien, je ne parle pas du chemin de fer, On a un vrai problème de transport en RDC. Le deuxième problème, c'est la question de la gestion des cours d'eau et de l'eau de façon plus générale. Parce que normalement, avec son potentiel hydrique, la RDC devrait aujourd'hui être à l'abri d'une grande partie des questions, qu'il s'agisse de l'irrigation pour l'agriculture, qu'il s'agisse de la question même de l'électricité avec les barrages hydroélectriques, pour ne citer que ces quatre précis-là. Et donc, que l'on se retrouve dans une situation où l'eau est un problème dans un pays de la zone équatoriale, pour moi, c'est quand même assez paradoxal. Je n'arrive pas à le comprendre et je n'arrive surtout pas à comprendre que les autorités se retranchent derrière le fait qu'elles peuvent accuser les conducteurs d'avoir été négligents ou qu'il n'y ait pas eu d'autres précautions qui ont été prises, parce que de toute façon, c'est aux autorités de veiller au respect des règles qu'elles ont fixées et d'assurer la sécurité des gens quand ces règles n'ont pas été respectées et qu'il y a besoin d'assistance. Donc, c'est pour ces différentes raisons-là que j'ai choisi ce sujet pour exprimer à la fois ma colère vis-à-vis du fait que l'État n'est pas capable, au-delà d'édicter des normes, d'apporter une assistance aux victimes de ces situations-là. Et puis la deuxième, c'est que ce qui devait représenter une solution devient un problème.
Et donc vous pensez que le problème ne devait pas être résolu comme ça s'est fait maintenant à Sataka, n'est-ce pas, sur des questions conjoncturelles? Il faut plutôt trouver des solutions globales, des solutions structurelles.
Non, je veux dire, chacun doit jouer son rôle. L'État ne peut pas se mettre juste dans le rôle du censeur ou de l'observateur, de l'arbitre qui est là pour dire qui a raison, qui a tort. Il ne peut pas juste se retrancher là-dessus. Bien sûr que les passagers, bien sûr que les propriétaires aussi et les conducteurs ont leur rôle à jouer. Mais ce que je déplore, c'est que l'État, qui a une responsabilité beaucoup plus étendue que toutes ces personnes-là, donne l'impression de se défiler face à ses responsabilités.
Merci, Madame Élisée Odia. Comment vous expliquez qu'on ne soit pas en mesure de régler cette question des naufrages qui se pose presque chaque mois, chaque semaine? L'État essaie d'accuser en disant que les mesures ont été prises à Kinshasa par les ministères des tutelles, mais que le problème, c'est les armateurs qui ne respectent pas ces mesures. Et les armateurs, de leur côté, estiment qu'ils sont dans des conditions qui ne les permettent pas, n'est-ce pas, de respecter toutes les mesures prises par le gouvernement. Le problème se situe à quel niveau, à votre avis?
Je crois qu'on est dans un pays où la mort est banalisée. C'est-à-dire, quand on apprend que quelqu'un est mort, ça n'émeut pas ceux qui ont la charge d'essayer de diriger, d'orienter, de nous donner des solutions dans ce pays. Au risque de me redire, tout est au niveau de la prévention. On ne peut pas chaque jour, si on compte pas les nombres des viols, on doit compter les nombres des gens qui sont tués à l'Est, qui sont assassinés par les ADEF ou par l'agression rwandaise ou par la FPM-23. Si on le fait pas, c'est-à-dire que ce sont des gens qui meurent à cause d'Ebola, à cause de la sécurité. C'est-à-dire chaque jour, un Congolais peut mourir ou les Congolais meurent dans l'indifférence totale des autorités qui n'arrivent toujours pas à tirer les leçons de eux. Vous venez de le dire, c'est pas la première fois, mais malheureusement, ça sera pas la dernière fois. Pourquoi? Parce que les gens banalisent la mort. Parce qu'il n'y a pas de sanctions. Parce qu'on pense qu'on peut diriger le pays qu'on se concentre sur tous les maux qui rongent Kinshasa, la capitale, et fermer les yeux sur tout ce qui se passe dans d'autres coins de la République. Moi, je me rappelle une fois, à l'époque de l'ancien président, il y a un ministre qui a été poussé à la démission parce qu'il y a eu un naufrage. Parce qu'il y a eu des morts. C'est-à-dire, du moment où on n'arrive pas à sacraliser la vie humaine ici dans notre pays, tant qu'il y aura des morts, des naufrages comme ça, il y en a presque tous les jours, et que le BPM de transport restera en place au nom des conciliabules d'ordre purement politique, faut pas s'attendre à grand-chose. Faut pas aller taper sur le pauvre armateur. Là, si l'armateur éprouve des difficultés, pourquoi ces bateaux la roulent? Mais parce qu'il n'y a pas l'autorité de l'État. Et pourquoi il n'y a pas l'autorité de l'État? C'est parce qu'il y a des gens qui sont censés imposer cette autorité de l'État et qui ne font pas le job. Donc, on est dans ces pays, tant qu'on ne va pas resacraliser la vie humaine à tous les niveaux, il suffit pas de taper sur l'FCM 23 ou le Rwanda qui tue, mais il y a également des Congolais qui, chaque jour qui passe, au regard des décisions qu'ils prennent ou qu'ils ne prennent même pas, qui sont en train de désacraliser la vie humaine et qui sont comptables de ces morts que nous vivons tous les jours. De la même manière qu'on condamne le Rwanda, de la même manière qu'on condamne la FCM 23 parce qu'ils sont en train de tuer nos frères et sœurs dans la partie de la République, de la même manière qu'on doit condamner ces ministres-là qui laissent nos frères et sœurs mourir à cause des embarcations qui ne respectent pas les normes. Mais non, on trouve ça normal. Ben non, c'est pas normal. On ferme les yeux du moment où ça n'arrive pas à leurs enfants, du moment où ça n'arrive pas à leurs frères et sœurs. On se dit, ça ne me concerne pas, on ferme les yeux. C'est là où il faut qu'il y ait également ce réveil du côté des citoyens congolais. Ils ne peuvent pas continuer à accepter de traverser, d'être embarqués, aller dans des embarcations qui ne respectent pas les normes, continuer à compter ces décombres macabres chaque jour et continuer à regarder comme ça les autorités et ne pas demander de compte. Non, il est temps que le Congolais, le citoyen congolais, l'homme et la femme congolaise puissent se lever et commencer à réclamer, à exiger des comptes aussi à ces autorités-là, quoi. À qui on a donné le pouvoir, à qui on a donné des instructions, à qui on a donné des orientations et qui apparemment ne font pas le job.
Merci Eric Mwamba. Nous allons terminer cette émission avec vous. Madame Élisée Audia a insisté sur la prévention. Et à votre avis, au-delà de toutes les mesures que le ministère des tutelles a tendance à rappeler chaque fois quand il y a un accident, au-delà de tout ça, que devrait faire le gouvernement congolais pour justement prévenir de manière efficace tous ces accidents?
Bon, c'est un problème d'absence de la vision en matière d'infrastructure, puisque sur les 2 345 410 km² de superficie de la RDC, l'espace couvert par l'eau est de 700 000 km². C'est pratiquement le un quart du territoire national. En un pays où il n'y a pas de route. Et je pense, parce que quand on parle même du potentiel hydraulique, pour les gens qui ne connaissent pas la RDC, ils savent pas ce que cela représente, mais en dehors du fleuve, on a le lac Tanganyika, lac Kivu, lac Albert, lac Édouard, lac Maïndombé, et bien d'autres. On a les corridors avec beaucoup d'espace navigable, c'est-à-dire que si le transport fluvial et lacustre étaient bien organisés et pris en charge par l'État, le pays aurait tiré de grands avantages. Par exemple, la réduction du coût de la vie, l'intégration économique nationale, c'est-à-dire au-delà même de la question des accidents. Il y a beaucoup d'avantages économiques à tirer, même sur le plan sécuritaire. Donc, le désenclavement des territoires, la sécurité des populations, la création d'emplois, le soutien à l'agriculture, lui, Magloire a mentionné ça, les développements du secteur minier. Donc, le fait que ces secteurs, donc les secteurs du transport fluvial et lacustre, est abandonné, au-delà de la question d'accident qui revient souvent dans les débats, dans les médias et dans les conversations, il y a tous ces avantages qui échappent à l'État et à la population. Donc je pense qu'il est temps que l'État congolais puisse élaborer une véritable politique en matière d'infrastructure. Mais moi, j'aimerais appuyer ce que Mme Élisée Audia a dit tout à l'heure. Il y a un problème d'impunité, puisque dans d'autres pays, lorsqu'il y a mort d'homme, et surtout que dans le cas de la RDC, cela s'est fait de manière répétitive, on devrait sanctionner des personnes dans le gouvernement ou dans d'autres, à la tête d'autres institutions de l'État, mais il y a mort d'hommes de manière répétitive, mais après cela, la situation reste comme si de rien n'était.
Merci, c'est par là que nous mettons fin à cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer, Madame Élisée Audia, Monsieur Louis Magloire Kemayou et Monsieur Eric Mwamba. Merci aussi à Alain Ngoï qui est à la technique avec la participation de Dieudonné Nyangasa, à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. Nous allons nous séparer avec IOA, une autre composition de J.B.M. Piana, une façon pour nous, n'est-ce pas, de continuer à lui rendre hommage à l'occasion de son anniversaire. On écoute donc IOA et on se retrouve le samedi prochain.
Mon amour, je suis venu à la fête, comme on l'a.